Victor Stoïkita est l'un des grands maîtres de l'histoire de l'art aujourd'hui. Du reste, cela lui a été reconnu par la chaire du Louvre, les conférences qu'il vient de donner, qui sont devenues un volume magnifique sur la peinture des marginaux dans, et la conscience aussi d'autrui à la fin du XVIe siècle. Mais ces domaines vont au-delà. Il y a une réflexion, je dirais, philosophique sur l'objet d'art, notamment l'instauration du tableau. Il y a une conscience des genres de la peinture et notamment l'œil mystique, enfin, la peinture des états mystiques dans la tradition espagnole et italienne du XVIe et XVIIe siècle. Le concept de l'ombre, est-ce qu'il y a profondeur sans ombre? Et là aussi, c'était l'un des livres les plus séduisants. Et aussi l'effet Pygmalion, c'est-à-dire comment l'humanité, je dirais même à partir de la tradition classique, a essayé de penser à quelque chose de vivant, ne pas jusqu'à évidemment un chef-d'œuvre inconnu. Comment réaliser quelque chose qui ne soit pas une pure représentation, donc une copie, mais quelque chose qui puisse devenir vivant. C'est simplement dire quelques-uns des immenses territoires que Victor Stoïkita, vraiment un grand esprit européen, domine et nous propose. Et je suis très reconnaissant qu'il, d'abord, il soit fidèle à nos rendez-vous de recherche. Et voilà, aujourd'hui, il nous propose le Caravage et l'image de l'autre. Donc, c'est une belle cohérence. Et peut-être qu'à la fin des trois exposés, nous pourrons faire un débat, pour ainsi dire, cumulatif sur les trois exposés. Un grand merci, cher Victor.
Merci beaucoup, Carlos, de m'avoir invité à ce colloque, aussi pour cette introduction. Carlos l'a rappelé dans sa première introduction au colloque. Philippe Honnêt, il meurt en 1595. Quelques mois après, le Caravage arrive à Rome, probablement. Monsieur Fabrice l'a rappelé, donc toute cette polémique. Et c'est probablement de cette époque, donc de la première époque du Caravage, qui arrive donc à Rome, pauvre, désemparé, en cherchant production. C'est probablement de cette première époque que date cette œuvre, qui n'est ni signée ni datée, le Narcisse. On se rappellera ici de la belle histoire racontée par Ovide dans le troisième livre des Métamorphoses. Et je donne une longue citation, d'après mon opinion nécessaire. Ovide donc. « Le jeune homme veut apaiser sa soif, mais sans naître en lui une soif nouvelle. Tandis qu'il boit et pris de son image qu'il aperçoit dans l'ombre, dans l'onde, il se passionne pour une illusion de son corps. Il prend pour un corps ce qui n'est pas que de l'eau, ce qui n'est que de l'eau. Il s'extasie devant lui-même, il demeure immobile, le visage impassible. Que de fois il donne des vains baisers à cette source fallacieuse, que de fois pour saisir son cou il voyait qu'il voyait au milieu des eaux, il plonge ses bras sans pouvoir l'atteindre. Que voit-il? Il l'ignore, mais ce qu'il voit le consume. La même erreur qui trempe ses yeux les excite, crédule enfant. Pourquoi t'obstines-tu vraiment à saisir un simulacre fugitif? Ce que tu recherches n'existe pas. L'objet que tu aimes tourne toi, il s'évanouira. Ce que tu aperçois n'est que l'ombre de ton image. Elle est rien en soi-même. Nil habet ista sui. Avec toi elle vient, avec toi elle part. Mais cet enfant, c'est moi. Fameuse exclamation iste ego sum. Je l'ai compris et mon image ne me trompe pas. Je brûle d'amour pour moi-même. On se rappellera également que Léon Battista Alberti, dans des Pictures de la peinture, 1435-36, considéra la fable ovidienne comme mythe fondateur de l'art. Encore une citation, encore un peu plus brève. Alberti, qui dit « J'ai l'habitude à dire à mes amis que l'inventeur de la peinture, selon la formule des poètes, a dû être ce Narcisse qui fut changé en fleur, car... s'il est vrai que la peinture est la fleur de tous les arts, alors la fable de Narcisse convient parfaitement à la peinture. La peinture est-elle autre chose que l'art d'embrasser ainsi la surface d'une fontaine ? Ce texte fameux suggère fortement que l'art occidental, dont Alberti en fut le premier porte-parole, s'est constitué sous le signe d'une recherche identitaire, loin de tout intérêt pour l'image de l'altérité, et en se faisant du territoire du même son domaine de prédilection. Dans ce contexte, le Narcisse du Caravage signe une rupture. Il est imbu d'un dramatisme que la théorie albertienne escamotait adroitement. Plus qu'un phénomène liminaire, nous avons devant nous un phénomène de clôture. Le tableau, vous le voyez, est conçu en tant qu'image double, apte à mettre en confrontation le moi avec son autre. L'œuvre suggère la possibilité d'un renversement analogique, tout en s'arrêtant sur le seuil de l'illusion, du fantasmatique, du spectral. Elle aborde la fable ovidienne du même qui tombe amoureux d'un autre factice, au sens d'une histoire de désenchantement, en se plaçant par là au pôle opposé par rapport au programme d'Alberti. Le Caravage avait sans doute lu Ovide, mais il l'a lu, je dirais, autrement. La façon dont le Caravage considéra ce mythe devient plus claire si on place son Narcisse dans le contexte de ses recherches figuratives. On a donné jusqu'ici trop peu d'importance au fait que ce peintre, qui signe en Narcisse la crise de la primauté du même, fut également l'auteur d'un autre tableau emblème, thématisant cette fois-ci, de façon déclarée, la rencontre avec l'autre. La Bonaventure, œuvre réalisée plus ou moins à la même époque que le Narcisse, met en scène deux personnages, un jeune homme d'allure élégante, fier de son accoutrement, et une jeune femme au teint basané, désignée par les sources comme étant une Zingana ou bien une Zingera. Cette image de dialogue n'est dépourvue ni de sous-entendu érotique, ni d'allusion d'une confrontation subliminale, et il faut souligner le caractère frappant de la coexistence, voire de la coïncidence dans l'œuvre du Caravage, de la thématique traditionnelle de l'identité, considérée comme clé de voûte de la représentation occidentale, le Narcisse, avec le dépassement de la distance indiquant l'altérité de l'autre. Les multiples défis lancés par ce peintre, dont la mise en question du même et la recherche d'autrui, provoquèrent, on le sait, l'alerte de l'Académie, qui ne tarda pas à émettre le doute quant à savoir, en fin de compte, si le Caravage n'était pas venu au monde pour détruire la peinture, phrase célèbre. Quelle est la place de l'autre dans ce processus? La question me semble importante car elle pointe sur le caractère de construction hors norme de l'altérité. La différence existe, l'altérité, elle, se construit. Il n'y a pas d'autre en absence du même, et les termes sont évidemment réversibles. La rencontre est en mesure égale une épreuve du même et une épreuve de l'autre, car le même est l'autre de l'autre, tout comme l'autre est l'autre du même. L'anthropologie actuelle a commencé depuis un moment déjà à mettre en doute le lieu commun classique selon lequel l'autre ne serait qu'une projection fictionnelle, qu'un miroir du même, en invitant des approches plus substantives d'une réelle altérité ontologique. Retournez en ce contexte encore une fois vers l'image de l'autre dans le champ occidental pourrait sembler paradoxal. Mais en fin de compte, c'est ma thèse, ce questionnement est le versant interne de la même recherche de dépassement du thème de l'altérité spéculaire. Et une analyse ponctuelle, ce que je voudrais proposer maintenant, une analyse ponctuelle de la Bonaventure du Caravage, nous permettrait d'avancer sur cette voie. Ce n'est pas le peintre italien qui invente le thème de la Bonaventure. Celle-ci fait partie de la plus ancienne iconographie des bohémiens, iconographie imbue de lieux communs. Les plus anciennes sources mentionnent la chiromancie en tant que pratique définitoire de l'ethnie des Égyptiens, ce qui engendra rapidement des multiples figurations. Les tapisseries de Tournai, ainsi que les œuvres de Hans Burgmeier ou de Jérôme Bosch ou même de Peter Bruegel en témoignent. la nouveauté de la démarche figurative qui émerge à la fin du XVIe siècle et fleurit au siècle suivant, donc la nouveauté du Caravage, est constituée par deux aspects qui ont à voir justement avec le thème de la simplicité, de la simplification, de la concentration d'un ancien thème. Il s'agit premièrement du cadre serré de l'image et, secondo, de son érotisation. Ils engendrent apparemment des conséquences différentes, mais sont liés en réalité dans un rapport étroit. Le premier, on a fait objet de recherches picturales, qui a fait de ça l'objet de ces recherches picturales, fut le Caravage. Et on lui doit, on le sait, deux versions de la Diseuse de Bonaventure. La seconde que vous voyez en bas, celle du musée du Capitole à Rome, faisait partie probablement de la collection Del Monte qui a été invoquée tout à l'heure. L'autre se trouve au Louvre où elle est arrivée en arrivant en France assez tôt, vers le milieu du XVIIe siècle. En dépit de certaines différences, les œuvres, les deux, sont apparentées par la focalisation, en gros plan de la rencontre entre un jeune élégant cavalier et une jeune et belle bohémienne. Le tableau du Louvre, qui sera au centre de mes considérations, a des dimensions plus réduites et aussi plus concentrées. Les deux personnages, vus à mi-corps, occupent presque tout l'espace de la représentation. En l'absence de tout élément de paysage ou d'architecture, le spectateur ne reçoit aucune information quant au lieu de la scène. La seule certitude est qu'elle advient, pour ainsi dire, sous ses yeux. L'éclairage intense provenant de gauche met à nu des détails. Le visage plutôt poupin du jeune homme, ses boucles échappant du chapeau à plumes, sa belle mise. Le fait que la bohémienne ait le visage partiellement en ombre renforce la nuance basanée de son teint. Elle porte un turban blanc sur une chevelure brune en désordre, une chemise blanche à col brodé et une cape de type schiavina nouée seulement à l'une de ses épaules. Elle tient la main droite du jeune homme et le dévisage. La composition en gros plan dirige forcément notre propre attention vers les détails de ce récit minimaliste, c'est-à-dire vers le jeu de regard et celui des mains. Et c'est ici qu'un premier élément vient troubler notre perception. La bohémienne, qui devrait lire le sort du jeune homme dans les lignes de sa main, se montre plutôt intéressée par les traits de son visage. Aux yeux d'un spectateur peu attentif, l'incohérence peut passer presque inaperçue. On le constate en effet en lisant l'une des premières descriptions du tableau que Gian Pietro Bellori consacra dans ses Vies de peintre moderne, qui est de 1672. Le Caravage, dit Bellori, aurait peint une zingana, et je cite maintenant, en train de dire la bonne aventure, comme on coutume ces femmes de race égyptienne. Il fit un jeune homme qui pose la main gantée sur son épée et tend l'autre, découverte, à la femme qui la tient et la regarde. La poggia scoperta così che la tiene e la riguarda, donc la main. Les inexactitudes du biographe s'expliquent probablement en grande partie par le caractère inattendu que le Caravage assigne à la mise en scène d'un topos. En bref, Bellori nous décrit ce dont il se rappelait ou croyait d'avoir vu, au détriment de ce que le tableau montre vraiment. Un autre commentateur, par contre, l'amateur Giulio Mancini, affine à l'extrême son examen, au point de discerner dans le tableau le presque indiscernable. Dans ses Considerazioni sulla pittura, rédigé autour de 1620, mais publié beaucoup plus tard, il note que, et je cite ce que Mancini dit, la zingaretta montre sa fourberie avec un fin sourire en ôtant l'anneau du jeune homme, tandis que ce dernier démontre son ingénuité et son inclination amoureuse pour la beauté de la petite bohémienne qui lui dit la bonne aventure et lui enlève son anneau. Bon, il faut s'arrêter un instant. Il est évident que Mancini considéra ce tableau d'une façon très spéciale, lui assignant des fins détails liés à une projection imaginative. Son commentaire engendre une histoire indépendante qui glose en marge du tableau et s'organise autour de la tension psychologique entre ruse et naïveté. Dans ce commentaire-récit, le détail de la bague volée, que Mancini mentionne, vous l'avez vu deux fois, est en effet le résultat d'un dépassement de la contemplation. Ce qui est visible, concrètement, tend vers l'infinitésimal perceptible, voire vers l'invisible. Le détail dévoilé est issu du regard de Mancini et non de l'œuvre. En pénétrant dans le tableau, il creuse tant le centre que le sens. Le second thème introduit par Mancini dans son bref commentaire, celui du désir amoureux, sera exploité plus ou moins à la même époque par certains artistes, notamment dans un beau dessin attribué au Guerchin. Il s'agit d'une étude conçue pour un tableau à figure entière qui, selon toute probabilité, ne fut jamais réalisé. Le dessin se trouve au cabinet de dessin du Louvre. Sur la rencontre du cavalier et de la bohémienne, flotte, on le voit, le petit dieu de l'amour, qui, les yeux bandés, s'apprête à lancer des flèches. Or, la variante érotique la plus importante de ce récit de rencontre ne nous est pas révélée dans la peinture. Ce tableau ne fut jamais réalisé. C'est un peu un inutum, ce dessin. Donc, la variante érotique la plus importante fut réalisée dans la poésie. Dans le 15e chant de l'Adonis de Giovan Battista Marino, en 1623, l'un des grands amis du Caravage, d'ailleurs, on le sait, le thème de la bonne aventure reçoit un traitement détaillé à l'aide d'un déguisement mythologique. Chez Marino, et je résume, le chant est long et le fragment est long, je dois résumer, chez Marino, c'est Vénus elle-même, travestie en égyptienne, Barbara Donna in me infinata, et accompagnée d'un enfant qui apparaît devant Adonis, à la croisée des chemins, c'est important, dans un endroit où ombre et lumière se disputent la prééminence. Parée de satin rayé et d'autres accoutrements étranges, barbareschi modi, cette bellissima zingara s'empare de la main droite du jeune homme, blanche comme la neige, et lui prédit l'avenir. À cela, elle prend subitement un grand plaisir et prende nel toccar alto diletto. Un flux semble la traverser, tandis que le jeune homme ne peut plus détacher son regard de cette grande magicienne. Je donne une citation, c'est donc Marino Ladone 1546. A questo dir la bianca man l'estende, vago d'udir più oltre il giovinetto, con un sospiro tremante la prende, e prende nel toccarla alto diletto, e quel pungente stral che il cor offende, sente scotersi nanto, intanto in mezzo al petto, l'altro conciliatese, e labbra aperte, gli occhi da lei pendenti, a lei converte. Une synergie plurisensorielle est établie et atteint son climax dans la scène où le voile sombre, il fosco velo, qui couvrait la déesse, déguisée en zingarella, se déchire. À cet instant, les bras du jeune amoureux, les bras des jeunes amoureux, se font chaîne dans une mémorable étreinte qui confond les deux amoureux en unique être. Et je donne une citation, je la donne en italien, je n'ai pas eu le courage de traduire Marina en français, il n'y a pas de traduction française de ce chant. Alors, l'incatenata infocata diva, in odira doppio saldi e tenaci, sveglio si amor che non lontan dormiva, ed amor si svegliarono ancora le facci, l'accesa coppia in su la fresca riva, i vezzi favoria con mille baci, gioiva Adone ed è passati affanni, campo aveva ben da risarcire i danni. Dei di perduti e del ritorno tardo, ristora il tempo entro il bel grembo assiso, dolce pria l'arse il lampeggiar del guardo, dolce ferillo il folgorar del riso, ma dolcemente da più dolce dardo, al saettar del bacio e già qui ucciso, languivano l'alme e del qual colpo tocca, gravida di due lingue era ogni bocca. Dans cette scène, Marino transcende visiblement tout ce que l'œuvre du Caravage ou du Guerchin aurait pu suggérer, en se rapportant selon toute probabilité à d'autres sources visuelles qu'il font avec une grande liberté, dans sa variante poétique et mythologique de la rencontre amoureuse. Le poète semble marier les solutions venant de la bonne aventure du Caravage avec les représentations symboliques des fiançailles, comme on peut le trouver dans certaines gravures nordiques, et à celles offertes par les allégories du toucher, telles qu'elles furent forgées justement à l'époque où le Caravage réalisait son tableau et le Guerchin son dessin. Voilà une de ces allégories du dessin où l'accolade, le baiser, est mise au premier plan. L'accolade chaîne, les regards qui fondent et se confondent, le baiser qui unit. Voilà des thèmes que l'imagination poétique et la culture visuelle de Marino permettent de projeter sur un tableau devenant par là prétexte et sous-texte d'un poème. Les commentaires primitifs, dont celui de Bellori et celui de Mancini, que je viens de citer, mais aussi l'invention poétique de Marino, témoigne du défi généré par une représentation en gros plan polarisée entre jeu de main et jeu de regard. En interrogeant le contexte historique de l'invention liminaire du Caravage, il faudra tenir compte du fait suivant. Certaines sources ont mis en avant le paradoxe d'une telle pratique. En effet, le don des bohémiennes, très souvent mis en doute d'ailleurs, relèverait surtout de la psychologie empirique. Afin de deviner le passé et de prédire le futur, était privilégiée l'observation du visage au détriment de celle des mains. Il ne s'agit pas du tout, affirment les plus critiques, d'un savoir spécialisé, codifié depuis longtemps par des anciens traités de chiromancie et de physiognomonie, tel par exemple Johannes de Indagine, qui traite donc de la lecture du visage et de la lecture des mains. Mais il s'agit plutôt d'un savoir purement intuitif et par conséquent d'une supercherie. Or, pour mettre en marche une supercherie, il faut être au moins deux. Et ceci est le sens de la pratique de la bonne aventure. C'est là que cette pratique révèle tout son épaisseur. D'ailleurs, elle a été très critiquée dans des traités. Je montre le frontispice du traité de Praetorius, qui est de 1650-61, où justement la pratique de la bonne aventure est mise en question au nom de cette tradition ancienne qu'elle ne respecterait pratiquement pas. La divination conçue selon le rituel bohémien était le résultat d'un pacte tacite entre le représentant d'une culture pour laquelle passé et avenir sont des notions phares, la culture, disons, occidentale, passé et avenir, et le représentant d'une culture autre qui fait du présent sa seule et unique valeur. L'envie de connaître l'avenir se paye par le présent. Toute diseuse de bonne aventure, et on le sait encore aujourd'hui, demande à l'avance son argent, gage de pacte. Chez le Caravage, ce gage manque. Et c'est alors, il me semble, que Mancini y survient en transgressant le visible. Vous vous rappelez, la petite bohémienne dit la bonne aventure et enlève l'anneau. Les enjeux du commentaire bellorien sont tout autres. Vous vous rappelez de son oubli, qui est compréhensible surtout si l'on tient compte du fait que cette œuvre l'intéresse moins pour ses détails que pour sa portée programmatique. Pour ce biographe, j'insiste maintenant un peu sur la vision du Caravage donnée par Bellori, qui n'aimait pas beaucoup le Caravage, autres étaient ses idéaux. Pour Bellori, qui est en même temps l'un des plus importants théoriciens de l'art de son temps, la diseuse de Bonaventure est un tableau manifeste. La page qu'il lui consacre dans la vie des peintres modernes, bien que connue et maintes fois commentée, mérite d'être relue et analysée encore une fois avec attention. Je résume encore une fois. Arrivé jeune à Rome, le Caravage vit dans la misère, on l'a vu déjà, et sans adresse fixe, senza recapito, il passe par divers ateliers, peint des natures mortes et développe sa propre vision chromatique. C'est à cet instant, selon le biographe, qu'une nouvelle esthétique commence à se cristalliser. Elle se révélera pour la première fois justement dans le tableau représentant la diseuse de Bonaventure. Et je donne la citation de Bellori, encore une fois dans un contexte plus large, donc je cite Bellori, « Ne proposant à son pinceau que l'imitation de la nature, il ne regardait pas en même, et il ne regardait pas et même dépréciait les merveilleux marbres de l'Antiquité et les peintures si célèbres de Raphaël en se proposant la nature comme seul objet de ses pinceaux. Les plus fameuses statues de Phidias et de Glycon lui ayant un jour été proposées comme objet d'étude, il se contenta, pour toute réponse, de montrer la foule d'un geste de la main. Il voulait par là faire comprendre que la nature l'avait ainsi pourvu des maîtres à suffisance. » Et pour donner autorité à ces paroles, maintenant vient ce passage programmatique, donc Bonaventure comme manifeste d'une nouvelle peinture. Et pour donner autorité à ces paroles, il appela une bohémienne qui passait par hasard dans la rue, una zingana che passava a caso per strada, et l'ayant conduite à son auberge, il fit son portrait. Il la représenta, et maintenant j'ai continué, même si j'avais cité déjà ce passage, il la représenta en train de dire la bonne aventure, comme en coutume ces femmes de race égyptienne, il y fit un jeune homme qui pose la main gantée sur son épée, étant l'autre découverte, la femme qui la tient et la regarde. Et dans ces deux demi-figures, il traduisit si bien le vrai que ses prétentions se trouvèrent justifiées. Fin de la citation. Bien que le texte constitue une énième légende de l'artiste, elle est pleine de topoi, vous l'avez vu, il est important de bien cerner son rapport, son apport. Le récit bellorien décrit le trajet menant du choix du modèle à la réalisation d'un tableau. Le premier acte, celui de la rencontre fortuite dans la rue, relève d'une réalité spécifique de l'époque du Caravage. Le migrant avait désormais franchi le seuil interdit de la ville, qui devient désormais l'un de ses domaines d'errance. On réalise mieux les enjeux de cette lente avancée en corroborant la lecture des sources écrites aux témoignages iconographiques. La chronique de la ville de Spitz datant de 1485, vous voyez, vous la voyez à gauche, et le frontispice des Cingaresche d'Alfonso Tosi, publié à Bologne en 1611, révèlent des nettes différences. Alors que la miniature suisse met en scène l'ostracisme, le frontispice de Tosi prône une présence. La Cingara est devenu un personnage monumental de la scène citadine. Oh, le langage de l'image, tout autant que le contenu de cet écrit, mérite une attention particulière. Il expose d'une façon très simple les différentes façons de dire la bonne aventure. On comprend alors qu'au début du XVIIe siècle, la Zingana avait accédé à la ville tout en conservant son statut marginal. La page de titre la représente, vous la voyez, sombre présence au milieu d'une rue, observée par une femme se trouvant au piano nobile d'une habitation. La distance entre intérieur et extérieur, bien que reformulée, est encore en vigueur, le petit catalogue des situations divinatoires déployé par le texte du frontispice nous apprend les diverses modalités de prédire l'avenir. Vous le voyez à la fenêtre, sur le seuil de la porte, considérant le voyage, considérant le visage, examinant les lignes de la main. L'énumération des seuils et l'enchaînement des approches sont frappantes. Revenons au scénario de réalisation plein d'enseignements exposé par le Caravage et commenté par Bellori. Le Caravage, apparemment, trouve son modèle dans la rue, acte démonstratif d'une esthétique, disons, réaliste, le conduit dans son logis-atelier et lui fait le portrait, en imaginant une scène topique, celle de la bonne aventure. On en apprend peu en revanche sur la provenance de l'autre personnage du récit, le jeune homme. La description de sa mise en scène est certes détaillée, mais défaillante. Le biographe décrit surtout ses mains, en spécifiant d'une façon plutôt inattentive le fait que l'une d'entre elles reste gantée sur son épée, c'est-à-dire, dirons-nous aujourd'hui, sur son instrument de pouvoir, tandis que l'autre est offerte dénudée, sans défense, pauge scoperta, dit Bellori, à la zingana. C'est à cet instant qu'intervient le lapsus qui dédaigne la fondamentale bifurcation sensorielle et la richissime intrigue visuelle offerte par ce tableau. Pour la première fois dans l'histoire, le rapport de l'autre au même est exposé au carrefour du contact et de la vision. Par ailleurs, Bellori manque, ou peut-être contourne, la nouveauté majeure de cette œuvre, en l'occurrence la synergie, si chère d'ailleurs au Caravage, de la vue et du toucher. D'autres œuvres du même maître l'ont démontré, je ne peux pas insister ici. Giambattista Marino, par son esprit poétique, parvient à appréhender cette synergie. Or, il la conduira à une surenchère marquée par des multiples déguisements culturels. En revanche, on peut suivre sans faille Bellori quand il affirme que ce dispositif visuel réussit à capter de façon exemplaire la vérité, comme Bellori le dit. Le biographe tente de rattacher l'art du Caravage à une tradition autre, représentée par l'un des peintres mythiques de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, le légendaire Eupompos. Je donne encore une citation de Bellori, où il essaie de rattacher la nouveauté révolutionnaire du Caravage quand même à une tradition, celle de Pline Eupompos. Michele traduisit, dit Bellori, dans ces deux demi-figures si directement la vérité qu'il réussit à confirmer ses dits. On peut lire quelque chose de semblable à propos du peintre ancien Eupompos, même si le temps ne me permet pas de m'attarder maintenant sur les mérites ou les démérites de telle opinion. Et parce qu'il n'aspirait qu'à l'excellence de la couleur, afin que l'incarnat, la peau, le sang, la surface naturelle semblent vrais, il ne dirigeait son œil et son savoir que vers ces aspects en négligeant les autres idées artistiques. Fin de la citation. Tout comme son mythique ancêtre, comprend-on, le Caravage apparaît dans ce passage comme un peintre de la surface chromatique qui fait redoubler l'apparence palpitante des corps et engage l'œil. Il y a quelque chose de magique dans cette opération d'illusionnisme extrême. Ce n'est sans doute pas un hasard si les tout premiers commentaires de la Diseuse de Bonaventure soulignaient ce fait dans des textes poétiques au croisement du paradoxe et de la préciosité. Bien avant que Mancini et Bellori ne livrent leurs considérations et le chevalier Marino, sa glose, Gaspare Murtola avait consacré dans son recueil des rimes, qui est de 1603, un madrigal à la Cingara du Caravage. Je cite en traduction française, Murtola donc, « Je ne sais qui est plus ensorceleur, ou la femme que tu feins, ou toi qui la peins. Celle-ci est prête à nous dérober avec ses doux enchantements notre cœur et notre sang. Tu fais que peintre, on la voit vivante et, aux yeux des autres, frémissante. Je la cite aussi en italien parce que j'ai encore 3 minutes. Non so qual sia più magra o la donna che fingi, o tu che la dipingi, di rapir quella vaga, con dolci incanti suoi, il cuore e il sangue a noi, tu dipinta che appare, fai che viva si veda, e spirante altri la creda. Peindre, feindre est une quasi-homonymie issue d'une longue tradition. Elle préside à la formation du calembour central autour duquel s'organise tout le madrigal. Le peintre, tout comme la bohémienne, est un manipulateur d'apparence. Bellori suggère que le langage du Caravage se forme en marge du canon, à la périphérie du système social, tandis que Murtola le proclame maître du leurre. Peut-on conclure que le Caravage deviendrait par là un peintre zingano, inventeur d'une peinture zingana, peut-être? Mais une autre conclusion me semble plus importante encore. Elle concerne le fait que l'iconosphère de l'altérité est le pic visible où se joue dans un équilibre toujours renouvelé une négociation et une ébullition continue. L'épreuve de la rencontre avec l'autre, une fois entamée, personne n'est plus tout à fait le même. Merci beaucoup. Merci.
Je remercie très vivement Victor Stoïkita pour cette leçon de regard, pour cette proposition qui nous met au cœur de cette nouvelle lecture qui est consacrée surtout à un tableau important de Caravage, cette bataille qui devient essentielle à la fin du XVIe siècle et pour tout le XVIIe siècle, c'est-à-dire la primauté du toucher ou du regard. Et là, l'illustration parfaite de la Bonaventure me semble vraiment ouvrir une époque, comme Victor Stoïkita l'a dit, un texte manifeste presque nouveau siècle, et ce n'est pas un hasard qu'avec Mancini et Bellori, donc des historiens de l'art, Victor Stoïkita nous cite Marino et Gaspare Murtola, c'est-à-dire deux grands protagonistes de la poésie italienne du XVIIe siècle. En effet, dans cette espèce d'émulation, compétition et croisement du regard et du toucher des mains, Victor Stoïkita a aussi introduit un élément qui me semble essentiel pour comprendre cette fin de siècle, c'est-à-dire l'enquête sur le passé et la prévision de l'avenir d'un côté, et puis de l'autre, comme Victor Stoïkita l'a dit, le défi de l'instant, le regard de l'instant. D'un côté, ce besoin de maîtriser le temps, dont la Bonaventure est l'une des manifestations, et d'autre part, l'unicité de l'instant. Et de ce point de vue-là, toute une série d'emblèmes, in puncto vulnus, etc., montrent bien comment le XVIIe siècle a profité de ce privilège terrible, d'une certaine manière, de l'instant. Donc, à plusieurs titres, en effet, ce tableau peut être pris comme un manifeste, là aussi, récapitulatif de notre matinée. Je suis très heureux de constater que nous avons tenu ce qui était un peu un défi historique, c'est-à-dire tous vos exposés, dans le laps de 5 ans à peu près. Bon, pour Caravage, on n'a pas des dates définitives pour ces premiers tableaux, mais nous voyons que finalement de 1595 à 600, beaucoup d'éléments se jouent dans la ville et nous en ajouterons d'autres cet après-midi. Ce qui signifie qu'on peut très bien faire là, c'est une petite remarque de méthode que je me permets d'évoquer simplement à titre de remerciement et de reconnaissance à cet exposé. Nous avons souvent l'habitude de penser que seule la longue durée donne des éléments fiables au point de vue historique. Mais quand on croise les disciplines, on voit les lieux, à combien de fois nous avons évoqué cette Carità dei Pellegrini, San Girolamo, ces lieux de Il Pincio qui reviendra aussi, pardonnez-moi, Gianniccolo qui reviendra aussi cet après-midi, Palazzo Madama, enfin, les lieux sont porteurs vraiment d'une concentration historique. Et je crois qu'aujourd'hui, les trois exposés ce matin nous ont donné une vraie leçon de méthode. Il n'y a pas eu de répétition, mais il y a eu d'illustration réciproque. Je crois que c'est l'une des manières de faire aussi de la vraie interdisciplinarité, puisque la richesse humaine est telle qu'il suffit de déployer, sortir des disciplines et déployer les espaces et le temps.